Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Simon Dutin, avec Fred Weiss, Jérôme Pinault qui est toujours attentif à l'ordre où on l'annonce dans le débat.
Jamais noté en premier. Voilà.
Et Julien Beneteau.
Il vaut mieux être en premier ou en dernier.
Julien Beneteau.
Oui.
Voilà.
Qui est là. Marche.
Qui est là. Moi, je avec beaucoup de respect. Hein. On a pu apprécier ton accent espagnol il y a quelques instants.
Avec Los Ecolos.
Los Ecolos. Il y aura.
Los Ecolos.
Mundo. C'est incroyable. Fou. C'était complètement fou. Comme sur les GG sur le buzzer.
On y était.
Bah voilà, on est sur la route de la Vuelta, tout simplement. Évidemment. Les amis, les GG sur le buzzer, dans quelques instants, un médaillé olympique de Paris 2024 va participer aux Jeux des dopés. Vous savez, les Enhanced Games. Est-ce inquiétant? C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. En fin d'émission, je vous rappelle, venez jouer avec vos GG dans les jeux du sport ce week-end. Participez et remportez votre PC portable de la marque française Altic. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Avant d'ouvrir votre vestiaire, je voudrais qu'on aille de l'autre côté de la planète, au Japon, où Aurélien Tiercin nous attend. Salut Aurélien.
Salut les GG, salut à tous.
Aurélien. Il est quelle heure chez toi?
Bonjour Aurélien.
Il est 18h, c'est bon, moi je suis réveillé depuis longtemps, tout va bien.
Ok, très bien, j'espère que tu as quitté les grandes gueules du sport japonaise, peut-être qu'elles existent. Si elles existent, ce serait super et on les invite. Aurélien, les mondiaux ont commencé, les mondiaux d'athlée, matinée un peu frustrante pour la première matinée des Français, c'est ça?
Oui, bon, on a l'habitude oui. Avec l'athlée français, bon. Mais effectivement, c'est pas parti sur les meilleures bases. Mélina Robert-Michon, malheureusement, pour ses 11e mondiaux, sort en qualif. Également, élimination en série du relais 4x400 mètres mixte. Et on a vibré avec quand même Aurélien Quignon sur le 35 km marche. Il aurait pu succéder à Johan Diniz. Malheureusement, des énormes crampes au 28e kilomètre. Et il a fini en larmes. 5e, ça s'est vraiment pas joué à grand-chose. C'était déjà Quignon qui avait eu un petit bébé la veille de courir son 20 km marche aux Jeux Olympiques. Donc voilà, oui. Une petite pensée pour Aurélien Quignon qui a du mal. Et là, on va espérer simplement de voir Renaud Lavillenie, Thibaut Collet notamment briller à la perche. Ça commence à 12h05. Hilary Pacha à la longueur qui fait aussi partie du top 5 mondial cette année. Donc pourquoi pas une médaille à la longueur, ça commence à 11h30. Et puis on va jeter un œil sur les séries du 1500 mètres féminin avec Agathe Guillemot et le 3000 steep où en ce moment même Nicolas-Marie Daru tente de se qualifier en finale. Il y aura aussi Djilali Bedrani et pour terminer Luigi Laver, voilà, j'avais oublié notre troisième français sur le 3000 mètres steep.
Luigi Laver qui n'est pas gardien de but, Jérôme Pinault,
je peux pas venir.
Non.
Merci Aurélien, demain tu seras avec nous. Simon, tu veux dire
que... Non mais tu nous as goinfré la zapette là tout à l'heure. Moi ma zapette c'était les mondiaux d'athlée. Et Aurélien, je te confirme, est-ce qu'on va se lever à 4h30 du mat pour voir les Français se faire éliminer dans des mauvaises séries de 400 mètres relais? La réponse est oui, mon cher Aurélien.
Ah ben voilà.
Et on va suivre tout ça, on va se régaler.
Ouais.
Tu peux te rassurer parce que de mardi à vendredi, il n'y a pas de session matinée. Alors nous, ça nous permet d'aller boire des coups à Roppongi et vous, ça vous permet de profiter de la clé entre 11h et 15h.
Demain. Le 100 mètres, c'est français, à 15h20 demain, heure française. Ouais. Et d'ailleurs, quelle passe des incroyables, Julien. Ça me permet de dire que demain, on parlera dans le ring des GG. Le 100 mètres, vous fait-il encore rêver? C'est la question que l'on va se poser. Et Aurélien a rencontré des fans japonais qui viendront nous dire tout ce qu'ils pensent de Noah Lyles, notamment. Merci Aurélien.
Est-ce qu'il y a Mike Powell et Carl Lewis à la longueur?
Non, ça c'était en 91, hein.
Ils font plus ça.
C'était il y a quelques années.
Mais après, d'après ce que le passé, Simon, on l'a vu tout à l'heure.
Rapidement, je vous donne juste, c'est important, un résultat de rugby. La Nouvelle-Zélande a été battue à domicile 43-10 par l'Afrique du Sud au Rugby Championship. C'est la plus grosse défaite de l'histoire des All Blacks.
C'est un Jules ou pas?
À domicile.
Parce que les All Blacks ont mené 17 et notre Simon Dutin national avait prédit la victoire des Box.
Merci Julien.
Eh oui, mais attendez.
Un frère.
Mais vous croyez quoi dans les grandes gueules du sport? On met les cracks, hein, tout simplement.
Et Georges Quirino m'a dit quand on annonce ça en général,
allez,
ils en prennent.
Franchement,
ils devraient
être dans les paris. On entre dans votre vestiaire.
À la part de Denis Charvet, quand même.
RMC, merci. Le vestiaire des GG.
On va descendre d'un ton, les amis, on va être dans la confession maintenant. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle ensemble de quelque chose qui a attiré mon attention cette semaine. Dans le long entretien, j'espère que vous l'avez lu, de Kylian Mbappé au nouveau magazine L'Équipe, le capitaine des Bleus parle de la difficulté dans sa vie de tous les jours pour faire confiance à des personnes autour de lui, en dehors de son premier cercle. La ligne entre faire attention et être parano est très fine, nous dit Mbappé. Certains te veulent du mal, mais ça n'est pas tout le monde. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Il dit comprendre Cristiano Ronaldo, il ne fait confiance les yeux fermés qu'à quatre personnes. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble d'un sujet dont on parle pas souvent peut-être, c'est l'entourage dans le sport de haut niveau. En qui avoir confiance? C'est un vaste sujet. Jérôme, je voudrais qu'on commence avec toi. L'entourage, c'est quand même une problématique. Parfois, en tout cas, c'est quelque chose de très important pour un sportif de haut niveau. Il faut bien choisir.
Bah, oui, il faut bien choisir, surtout quand on commence à avoir un peu de résultats et que, évidemment, quand dans certains sports et dans beaucoup de sports maintenant, le résultat va avec le gain d'oseille, de l'argent. Et c'est là où c'est problématique et ça commence à être délicat à faire des choix. Moi, mon cas personnel, il était que je travaillais uniquement en famille et que j'ai fait peu confiance, enfin j'ai pas fait confiance à personne d'autre qu'à mes parents, mon frère et ma sœur, parce que même dans mon activité de cycliste professionnel, à partir du moment où je sais pas comment c'était pour vous les garçons, mais à partir du moment où on se rapproche de vous, quand vous commencez à avoir des résultats, on sait que derrière il y a forcément quelque chose qui est pas très clair et dans les moments difficiles, ce sont les seules personnes qui m'ont pas lâché. On le voit vite si on a des hauts et des bas dans une carrière.
Toi, c'était beaucoup ton frère pour le coup.
Mon frère a été mon entraîneur, a été moi mon confident, il l'est toujours, on travaille toujours ensemble, mais c'était parce qu'en fait, je savais que potentiellement il me trahirait pas. Alors la famille, je dis pas que c'est partout pareil. Moi, je savais que je pouvais avoir confiance et il m'a suivi jusqu'au bout. C'était l'homme de confiance, ce qui peut être le cas pour quelqu'un d'autre. Enfin, je vais faire plaisir à un auditeur. Je vais parler de Sylvain Chavanel. Il paraît que si j'en parle pas, j'ai pas.
On a reçu des messages.
Voilà. Et Sylvain est très en confiance avec son épouse et il y a qu'à elle qu'il fait confiance et c'est elle qui mène tout ce qui se passe autour du. À part dans le cyclisme, où là, on est seul sur notre vélo, évidemment, mais c'est elle qui a géré ses affaires.
Mais tu as aussi vu dans le vélo des entourages un peu plus toxiques.
Évidemment, et j'ai eu l'occasion de travailler avec des grands leaders, et notamment quand j'étais chez Quickstep, et certains se sont fait approcher, et sont tombés dans le piège de tout ce qui est paillettes. Évidemment, en Belgique, en plus, c'est un pays qui est très cycliste. Lorsqu'on est un champion du monde ou une star du cyclisme en Belgique, on est l'équivalent de ce que sont les footballeurs chez nous, et tout de suite, c'est tombé dans les pièges des dérives, les pièges des mauvais placements, les pièges des promesses non tenues et puis tout ce qui va avec la dépense d'argent et les fameux bons placements qu'on ne fait pas et qui sont souvent trop souvent des pièges à mon goût et qui font dire à mon avis à Mbappé que évidemment que la limite entre les deux à la parano et la confiance est très 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 infime.
Moi je pense qu'il vaut mieux être parano que faire trop confiance. Moi je suis quelqu'un de naïf au départ. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens qui se sont approchés de moi, énormément, et comme j'avais un contexte familial favorable à l'époque, j'ai pas succombé à ça, et le jour où j'ai eu mes soucis, je pense que je les exprime assez bien dans le documentaire, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi, parce que je n'avais personne sur qui me retourner, et j'avais plein de gens qui me proposaient des choses. Et donc comme je suis un naïf de base, j'ai fait confiance à plein de personnes. Et avec le recul, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile quand t'es quelqu'un d'inconnu qui s'associe à quelqu'un de connu, de faire des choses. Parce que c'est la personne connue qui prendra tout le temps. Moi, ça m'est arrivé quand je reviens à Limoges, j'ai tenté de faire des business. Et comme j'étais très peu là, vous le savez, je suis souvent dans les médias. Donc comme j'habite à Limoges et que je suis à Paris, c'est très compliqué. Et j'ai plein de gens qui ont commencé à venir. J'ai notamment une personne qui m'a fait miroiter plein de choses, qui m'a dit « Fred, tu peux me faire confiance ?» Et c'était un beau parleur. Je ne connaissais plus personne. Je sortais d'une grosse dépression. J'avais tendance à vouloir faire confiance un peu à n'importe qui. Et je me suis rendu compte que ce mec-là faisait n'importe quoi, vraiment absolument n'importe quoi, en mon nom. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que lui fait des bêtises, personne lui tombe dessus, mais sous prétexte qu'on travaille ensemble, c'est moi qui suis responsable d'origine. Donc, à cette question, je répondrai à personne. Parce qu'il faut
faire confiance à personne.
La confiance, ça se mérite et que ça doit se prouver et que tes parents parfois sont pas suffisamment au fait de ce qui se passe pour pouvoir t'aider. C'est ce que m'avait dit mon papa dès que je suis devenu professionnel à Limoges. Il m'a dit, écoute, c'est des sphères que je ne comprends pas, c'est des sphères que je ne connais pas et donc je vais pas pouvoir t'aider et au contraire, je serai un poids pour toi. Donc on va essayer de te trouver quelqu'un qui va t'accompagner. Et c'est très difficile parce que comme on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas, moi je suis fils d'ouvrier, j'ai pas de honte et au contraire, j'ai une grande fierté à ça. Eh ben c'est compliqué et ma sœur qui était loin c'était compliqué donc je me suis retrouvé un peu esselé à chercher de moi-même les gens qui pouvaient m'aider mais comme je suis très naïf et que je me suis fait avoir plein de fois.
Parce qu'on n'est pas prêt à savoir quel est le bon entourage.
Personne te prépare et c'est vrai que quand quelqu'un vient te voir, te dit des choses gentilles et sont sympas avec toi, te propose de gagner beaucoup d'argent assez rapidement, et ben t'as tendance à y aller parce que tu te dis pourquoi ils mentiraient, et en fait ils te mentiraient pour te soutirer de l'argent.
Non, il y a pas de règle parce que on parle de l'entourage familial. Tu as fait confiance à ta famille pour les affaires, etc. Ça s'est bien passé. Nous dans le tennis, on a deux exemples. Arantxa Sánchez Vicario qui a fait des investissements avec son papa et avec ses parents et elle s'est retrouvée entre guillemets ruinée. Juan Martín del Potro, le joueur argentin, son père lui a fait investir de l'argent, pareil. Ça n'a pas été une réussite.
C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de règle établie.
C'est pour ça. Il faut faire confiance à des. Et puis ça dépend des sujets. Quand Mbappé dit plus tu as d'argent, plus tu as du problème, des problèmes, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir graviter autour. Mais si tu t'entoures, entre guillemets, de professionnels pour gérer cet argent, ce n'est pas un gage de réussite, etc. Mais après, c'est la manière dont tu gères l'entourage. Et qui tu laisses rentrer dans ton cercle ou pas. Donc ça, c'est sur l'aspect financier et aussi un petit peu social. Mais aussi, il y a pas que ça. Il y a l'aspect sportif, en qui faire confiance. C'est ton frère qui était ton entraîneur, donc tu lui faisais confiance aussi sur l'aspect sportif pour te faire progresser. Moi, mon frère m'a entraîné sur les deux dernières années de ma carrière parce que j'avais confiance en lui et qu'il me fallait quelqu'un de confiance à ce moment-là. Pour repartir de zéro après une blessure. Nous, dans le tennis, le rôle de l'entraîneur, il est déterminant. On voyage 30-35 semaines par an avec cette personne-là.
Et comment tu l'as choisi ? Moi, c'est une vraie question. Comment tu choisis ton entraîneur par rapport à ta relation ? Comment tu sais que c'est la bonne personne, quoi ?
On rémunère cette personne qui doit nous dire des choses pour nous faire progresser. Donc la relation, elle est aussi
c'est bizarre comme
très ambiguë. Ouais. Ah mais très très ambiguë.
C'est c'est l'exemple que je donne beaucoup dans le cyclisme en fait, et c'est le fait de travailler en famille. Moi, ce qui me donnait la confiance, c'est de savoir que c'est mon frère. Il est fier de ce que je fais parce que c'est un duo, parce que lui n'a pas fait ce que moi j'ai pu faire. Donc lui, il a envie que je réussisse. Un entraîneur que tu ne connais pas, qui a belle réputation. On en parlait l'autre jour dans le tennis, des entraîneurs qui arrivent dès que ça marche bien. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Parce que son intérêt, c'est quoi ? C'est que tu le payes.
Bien sûr.
Que tu aies des résultats ou pas, tu vas être payé pareil. Et que dans l'équipe laquelle tu travailles, si elle ne met pas le nez dans ce que tu fais à l'entraînement, tout ira bien.
Ou le jour où tu as envie avec les frères.
Et le jour où tu as envie, toi, en tant qu'athlète, de dire à l'entraîneur, écoute, aujourd'hui, je ne la fais pas, la séance. Le mec que tu payes, il s'en fout.
Ouais.
C'est ton frère et qu'il est fier de toi et qu'il vit par toi les résultats et dire, non, mec. Tu y vas. Et moi, c'est ce que j'avais besoin.
Mais c'est la différence après entre les vrais entraîneurs qui sont là pour essayer de te faire progresser au maximum et ceux qui sont là par souci, entre guillemets, alimentaire. Et ils veulent juste être payés. Et comment tu sais quelle bonne personne il te faut, etc.
C'est compliqué, ça, quand même.
C'est très compliqué. C'est des affinités d'abord sportives, de voir ce que lui te propose ou elle te propose, est-ce que ça convient à ton jeu, est-ce que ça te fait progresser, etc. Et puis aussi, après, il y a quand même à prendre en compte, et je trouve que ça a évolué ces derniers temps, comment tu t'entends avec cette personne, parce que, comme je disais, tu passes beaucoup de temps dans les avions, dans les restaurants, dans les hôtels, avec cette personne. Les moments hors du terrain sont aussi très importants, parce qu'il faut être capable de faire confiance à cette personne à d'autres niveaux, être capable de lui dire quand il y a des problèmes personnels, financiers, parce que parfois ça plombe, ça t'empêche de performer, ça t'empêche d'être bien, et plus tu vas donner des informations à cet entraîneur, à cette personne, plus elle va être en mesure de pouvoir t'aider. Mais c'est quand même il faut être capable de donner sa confiance. Il faut que cette personne-là mérite ta confiance. Mais comme tu le dis, au début, tu n'en sais rien, donc c'est
forcément un pari. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant quand tu paries. Et juste pour rebondir une seconde rapidement sur Jérôme, oui, parce que ton frère est dans cet état d'esprit-là, mais il y a aussi des frères et des sœurs qui sont en condition, sont jaloux et qui peuvent être dangereux de la même manière, en fait.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC. La question aujourd'hui, c'est l'entourage dans le sport de haut niveau. En qui avoir confiance, Simon ?
Oui, moi, tout ce que je vais dire s'accompagne évidemment d'un point d'interrogation, mais et je vous pose la question, est-ce que finalement, puisque en fonction de l'origine sociale, de l'extraction, on n'est pas tous égaux avec un entourage familial, avec un entourage social, les amis, les nouveaux amis. Est-ce que finalement, il ne faut pas s'appuyer sur des marqueurs ? Je t'entendais dire, je pense. tu peux faire confiance? Est-ce que déjà ça en soi c'est pas suspect? Est-ce que finalement la personne qui vient te dire que
c'est
tu peux avoir, je pense que ça doit en effet. Et je pense que parmi les marqueurs, les indices, il faut peut-être se demander ce que la personne a y gagné. Et si tu veux faire confiance les yeux fermés, peut-être choisir des gens qui eux n'ont rien à gagner en s'associant à toi. Et à partir du moment où tu dis ah bah moi je suis pas sûr d'y trouver mon intérêt, mais cette personne en tout cas je vois l'intérêt qu'elle aurait à avoir ma confiance, et peut-être que c'est des choses qu'on comprend parfois un petit peu trop tard.
On comprend et on rencontre aussi des certaines personnes à des périodes différentes. Ouais. Moi, les premières personnes qui sont venues me voir, c'est des gens qui placent, c'est des optimisations fiscales, etc. Mmh. Oui, en 2002, t'es jeune, tu vas presque dire oui à tout le monde. Moi, si j'ai pas à l'époque des gens qui m'entourent, et notamment Didier Rousse, qui a toujours été mon maître en la matière et mon grand frère, s'il me dit pas, mais pose-leur la question à quel moment il passe à la caisse, et là, tu vas voir. C'est des questions à poser. Pareil, quand tu dois rencontrer quelqu'un, quand on parle du placement et de la gestion financière d'une carrière, demande-lui où tu veux qu'on se voit. Didier Rousse m'a toujours dit ça. Demande-lui où tu veux où il veut te voir. S'il veut te voir dans un endroit bling et public, n'y va pas. S'il vient te voir chez toi, alors tu peux discuter. Parce que le piège, il est du profiteur, il est aussi de l'accompagnateur fan. Le fan qui...
Qui veut se montrer avec toi.
Va se montrer avec toi. Si la première chose qu'il fait après le rendez-vous, c'est... Bon, par contre, on peut prendre une photo. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils. C'est pour... Là, c'est mort. Tu sais que le mec, il ira jamais... te dire ce que t'as pas envie d'entendre. Parce que quand t'es athlète, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu dois pouvoir t'entourer de personnes, Kylian Mbappé le dit un peu, de personnes qui savent te dire non. Qui savent te dire tu te trompes.
Mais c'est pas simple à trouver.
Personne donc qui va pas être là que pour le profit, parce qu'en général, pour le profit, tu dis oui.
Moi j'ai un exemple très concret. J'ai un ami de longue date, que j'avais 18 ans quand je l'ai rencontré, et entre-temps, il a très bien réussi dans les affaires, etc. Et depuis, il est revenu me voir, justement, il savait que j'avais quelques problèmes à m'entourer, il est revenu pour m'aider, et je sais que je peux avoir confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a réussi dans les affaires.
Il n'y en a pas besoin de toi.
Et parce que c'est un ami pur et dur. Et donc, c'est-à-dire que quand j'ai un problème, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Quand il se passe quelque chose dans ma vie, je peux l'appeler à n'importe quelle heure parce que je peux lui faire confiance. Parce que justement, malheureusement, c'est triste, mais effectivement, il a réussi, il a pas besoin de moi pour réussir. Et donc là, tu sens le mec désintéressé qui a rien à y gagner, qui est juste là pour t'accompagner et t'aider. Et j'avoue que c'est très très rare. J'ai eu la chance de le rencontrer presque 20 ans après. Et heureusement qu'il est là, je le remercie d'ailleurs.
Et ça, c'est avec de l'expérience. Donc on arrive à faire les bons choix. Mais quand t'as 20 ans ou 22 ans, bon, bah, il y a des red flags. Simon les a bien, cités et développés. Et effectivement, il faut arriver à percevoir les signaux qui sont dangereux, surtout sur l'aspect financier, gestion. Voilà, ça c'est.
Parce que là, on parle beaucoup de ça, mais on peut parler aussi des rencontres pour la vie privée, dans l'entourage. C'est ça aussi. Non, mais c'est vrai, la vie amoureuse et tout ça, Kylian Mbappé en parle amicale. Un peu. La vie amicale. Non, mais c'est complexe. Alors, aussi, est-ce qu'on n'est pas un peu parano, justement?
Sur la vie amicale.
Quand on rencontre un ami potentiel, une petite amie potentielle.
Sur la vie sentimentale, c'est autre chose. Et sur la vie amicale, c'est, moi, la réflexion que me faisait mon grand-père qui était dans le milieu du vélo, me dit, tu vas commencer une carrière bientôt, regarde combien il y a de monde autour de ta table. Tu verras qu'à la fin, il y aura autant de temps et autant de monde. En revanche, au milieu, il y aura beaucoup plus de monde. C'est là qu'il faudra faire que tu fasses le tri. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu commences ta carrière, t'es petit et inconnu au bataillon, tu commences à grandir et à faire un peu être public, là t'as du monde, tes amis, t'es vrai, c'est ceux qui étaient là au début.
Non, je te trouve un petit peu dur, tu peux faire des rencontres quand même, mais effectivement, j'en ai fait quelques-unes, mais effectivement, il n'y en a pas énormément.
Moi, je suis passé pro à 22 ans, attention, je suis pas parti au monde professionnel très jeune, en centre de formation,
Moi, je suis passé pro à 18 ans, et heureusement.
T'es 30 ans avant.
À l'INSEP, en tous les cas, mais c'est vrai que moi, il y a très peu de gens qui arrivent après et qui sont des fidèles, c'est plutôt des supporters, des fans, etc. Mais il y a aussi des gens bien, il faut pas.
Moi, je me suis fait beaucoup plus d'amis après ma carrière que pendant, en fait. J'avais mes amis avant, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, heureusement, Dieu merci. Et j'en ai perdu un peu, quand même. Mais par contre,
t'en as gagné. Avec moi, t'en as gagné.
Ouais, exactement. après ma carrière. Mais pendant, on est tellement. Le côté parano, je le comprends, t'es tellement méfiant. Qui au final t'as quand même pendant ta carrière du mal à faire confiance, sauf quand t'es dans le fond, parce que quand t'es dans le fond, quand il y a un mec qui te tend la main, il y en a pas beaucoup, et t'as tendance à faire confiance parce que t'es tellement dans le dur qu'on t'attend un peu un souffle. Et avec les relations intimes, c'est la même chose.
Moi, j'ai une question pour
en
vous.
En qui avoir confiance dans l'entourage du sport de haut niveau.
J'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous arrive comme à moi, tous les jours on me propose des business, tous les jours on me propose de s'associer avec moi, tous les jours on me propose de faire des choses ensemble. Est-ce que ça vous arrive aussi? Et comment vous déterminez ce qui est valable ou pas?
Moi, je veux bien répondre, ça va être très court. Moi, ils ont lu les articles dernièrement. Donc, ouais.
Non, moi, pas tous les jours, mais j'en ai eu beaucoup au moment où j'ai arrêté. Donc il y a 6-7 ans, très vite après j'ai eu beaucoup de propositions là-dessus, j'étais très surpris. Il y a une ou deux où j'ai répondu favorablement parce que j'y croyais un peu au projet, ça marche pas trop, mais
et qu'est-ce qui donne confiance dans ces projets justement?
Les personnes qui sont à la tête du projet, j'essaye d'avoir ce ressenti humain où je me dis c'est pas des margoulins, mais c'est totalement subjectif quoi, c'est totalement subjectif. Le domaine dans lequel aussi ils me demandent d'investir, dans quel domaine c'est.
Ouais, puis aujourd'hui on a quand même les outils.
Pour
savoir aller voir un peu comment ça se porte, et t'arrives à quand même consulter les l'origine des gens et l'origine du business, etc. T'arrives quand même à avoir plus d'infos
En qui avoir confiance dans l'entourage, dans le sport de haut niveau? C'était votre vestiaire et c'était comme d'habitude passionnant de vous écouter. Tiens, Julien Richard, notre spécialiste de natation, qui me signale que Léon Marchand lui a mis en place une cellule familiale hyper restreinte avec ses parents et une avocate qui est amie proche de la famille. Et donc là, effectivement, dans les jeunes athlètes, on est en plein dedans.
Oui, ouais. Mais on parlait du milieu socio-professionnel. Ses deux parents sont d'anciens nageurs, donc ils savent un peu ce vers quoi il va vivre.
Bien sûr. Fred, t'as pas 10 000 euros là pour lancer un business?
Tu peux nous faire confiance.
Hein. Et confiance.
On salue l'utilisation du...
Et je croyais qu'il fallait pas faire confiance au margoulin. Donc,
c'est ça. On salue l'utilisation du terme margoulin quand même.
Bien sûr, mais il faut toujours le souligner. Voilà, effectivement. Qui au final était
une petite définition du margoulin.
Quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance et qui est là pour profiter. Allez les amis, dans quelques instants, on va parler des jeux des dopés. Vous savez les Enhanced Games. Figurez-vous qu'il y a un médaillé olympique de Paris 2024 qui veut s'engager dessus. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? On arrive.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Jérôme Pinault, avec Julien Beletto, avec Fred Weiss, avec Simon Dutin.
Bah voilà,
attendez les gars, vous croyez quoi? J'étais pas prêt, c'est ça?
Ouais. C'est pas qu'on croit, c'est un truc de ouf.
C'est le début du week-end, samedi matin. Les gens, ils ont envie d'écouter un peu de musique dans la voiture. Ils ont pas envie d'être agressés.
Le jingle.
Faut y aller tranquillement. Donc, dans un instant, on va jouer, en plus.
Tu vas y arriver à faire le week-end?
Les jeux du sport.
Il fatigue,
hein. Dans quelques instants, voilà tout de suite ce qu'on fait un dernier débat. C'est tout.
Allons-y. The final of the men's 50 meters freestyle at the European Short Course Championships, and Ben Proud in lane four with the red hat has hit his start, and he's hit it wonderfully well. Over first by a good long way. Goodness me, look at that. How far? By about 0.18 of a second from Vaughan Manadou in lane one. Manadou's in there, but look at this from Ben Proud. Ben Proud winning gold by an awful long way. Oh my goodness me, a new European record for Ben Proud. Look at that time.
RMC, les GG sur le buzzer.
Retenez bien ce nom si vous avez fait anglais LV1, que vous avez tout compris. Ben Proud là, qui gagnait une course importante. On a déjà beaucoup parlé ici, les Enhanced Games, souvenez-vous, ce sont ces jeux du dopage imaginés par des milliardaires où les athlètes seront libres de se doper s'ils le souhaitent. Alors on parle de compétition de natation, d'athlétisme et d'haltérophilie dont la première édition doit se tenir en mai 2026 à Las Vegas. Cette semaine, un cinquième nageur de renom a décidé de s'engager en faveur de ces jeux sous stéroïdes. Il y avait déjà le double champion du monde du 100 mètres, James Magnussen. Désormais, c'est un médaillé olympique des Jeux de Paris. C'est pour ça que c'est important qu'il veut se doper pour espérer aller décrocher le million de dollars promis à ce lui qui battra un record du monde. Il s'appelle donc James Proud. Il a 30 ans. Il est britannique, médaillé d'argent à Paris 2024 sur le 50 mètres nage libre, hein, qui est un des distances reines.
Ouais. Ouais. Je suis pas sûr qu'on voit une grande différence en haltérophilie.
Non. Très bien.
Bon, non, d'accord. Les règles ont pas, les règles évoluent pas tellement.
Peut-être qu'il y a un mec qui va soulever 10 tonnes.
Ah, ok. Exploser en plein vol en même temps. Au moment de l'arracher, clac!
La question que je vous pose,
là, donne-nous ta question, Jean.
Julien, ils sont en train de t'expliquer que
attendez, les gars, pose la question.
Que là, les stéroïdes vont être autorisés
de manière officielle.
Ouais, exactement.
Ouais, genre, je pose la question.
C'est vrai, l'haltérophilie, ça peut donner quoi? C'est impressionnant. Il y a un mec qui va soulever.
Je pense que ça va pas changer grand-chose.
Ouais. Un médaillé olympique de Paris 2024 aux Jeux des dopés. Est-ce inquiétant, Julien Beneteau?
Moi, plus qu'inquiétant, je trouve ça, mais déprimant et désolant. C'est affligeant, voilà.
Jérôme Pinault.
Pareil.
Simon Dutin.
Affligeant, c'est le mot que j'allais utiliser également, mais pas inquiétant, pas plus que ça.
Ouais.
Fred Weiss.
Non.
Non. Ah non. 32-16.
Ah bah on parle d'un mec qui est tombé dans la gamelle quand il est
petit. Ouais, quand il est petit.
Fred, pourquoi ça t'inquiète pas de voir donc un médaillé de Paris 2024 aller dans ces jeux?
Déjà, pourquoi ça m'inquiète pas? On voit les dérives du monde actuel. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont payées sur Internet pour se faire taper. On voit aussi que les athlètes sont peut-être pas suffisamment rémunérés pour tout ce qu'ils font, tous les efforts qu'ils font dans la natation. Peut-être qu'on a envie de gagner un peu plus d'argent. Peut-être qu'il faudrait reconsidérer ce qu'on donne à ces athlètes qui donnent de leur vie, de leur personne pour faire des performances. Et aussi, il faut peut-être se poser la question, il l'a expliqué hein, d'ailleurs, Proud, il a dit, c'est compliqué pour moi de faire mieux que ce que je fais maintenant, donc le mec est peut-être aussi dopé à l'envie de battre des records, et donc pourquoi il tenterait pas de le faire? Ça me gêne pas, c'est l'évolution normale.
Ça dit quelque chose de l'économie du sport.
C'est l'évolution normale.
L'économie du sport est compliquée, mais j'ai l'impression que je suis qu'avec des rêveurs et des bisounours, donc eux veulent revenir à ce sport d'antan, à l'eau claire, ce qui me surprend pour certains sports dont je tairai le nom. Le
tennis,
le tennis avec le cyclisme, par exemple. Donc, très objectivement, c'est normal, c'est autre chose, c'est quelque chose de parallèle, et je vois pas pourquoi ce sera évident.
T'es pas pour,
je suis pas
ce que
pour.
Je viens de dire, mais
évidemment, évidemment pour les épreuves officielles, je veux pas qu'on soit dopé, évidemment.
Mais ça ne surprend pas. Vu l'économie du sport.
En plus, ça sera dans des conditions particulières. Ils vont être extrêmement surveillés. Faut arrêter.
Non, mais après cette attaque, je refuse de faire équipe avec Fred au jeu du sport.
Ah, mais c'est pas
possible. T'avais pas choisi.
est-ce inquiétant, Simon?
Fred a raison. Il faut pas voir ça comme du sport. Il faut pas regarder ça en tant qu'amoureux de sport, amateur de sport.
J'ai du mal à me, justement, t'as raison. J'ai du mal à pas regarder ça comme du sport. Mais alors qu'il faut enlever ce regard-là, ce prisme-là, parce que c'est.
Là où tu peux y trouver un intérêt, c'est éventuellement sur, une base scientifique éventuellement. Moi ce que je veux, c'est qu'on m'explique, qu'on nous rappelle quelles sont les performances, les standards de performance, et qu'on mesure en quoi justement les substances utilisées sont censées booster la performance, et qu'on regarde, qu'on constate. Je sais pas si vous avez vu ce documentaire extraordinaire sur Netflix, Icar, avec le cycliste, toi tu l'as vu, Jérôme, qui se transforme en enquête vertigineuse parce que c'est un cycliste amateur
à la base,
qui court le Tour de France amateur, et qui se fait rincer toujours par les 5 ou 6 mêmes. Et il finit par se dire, ces mecs-là, à mon avis, ils sont chargés. Donc je vais chercher un spécialiste du dopage pour me doper et voir si je peux rejoindre ces mecs-là.
Mais il le fait aussi en disant, je veux le faire à un niveau pour rester en dessous des tests antidopage, ne pas me faire contrôler positif, et aussi pour ma santé, que ce soit pas dangereux. Alors que là, moi, c'est ce qui m'inquiète.
C'est pour ça que je te dis qu'il faut que ce soit bien bordé, et je suis pas sûr que ce soit le
voilà, cas pour Las Vegas, dans cette édition. Les mecs vont se charger comme des mules, indépendamment de leur santé.
Ça fait partie de mes inquiétudes.
Juste, évacuons le truc tout de suite, on est d'accord qu'on est tous contre sur le principe de
dopage.
C'est le jeu du dopage. Hein,
dopage contre la guerre. D'accord. Et pour la
Juste, je voudrais qu'on écoute Johan Hendoy-Brouard. Vous savez, le nageur français double médaillé mondial cet été sur 100 et 200 mètres d'eau. Il est tombé de sa chaise, lui, en apprenant que Ben Proud rejoignait les Enhanced Games.
Je m'ai fait un petit électrochoc en me disant, mais est-ce que je connais vraiment bien cette personne, en fait, parce que il fait des choix que je ne comprends pas. Au final, le truc de la performance, j'ai envie d'être le meilleur que je peux, moi j'y crois pas du tout. Moi je pense que c'est vraiment une question d'argent. Il s'est dit, demain je mets une combinaison en polyuréthane, les jackets, je suis capable de nager moins de 21 secondes, donc je suis capable de remporter ce million de dollars. Et si en plus de ça, il rajoute le dopage, c'est sûr qu'il le fera. Donc je pense qu'il s'est dit, c'est vraiment un million de dollars qui va être facile à prendre. Il voit que ses coéquipiers, des gens qu'il a battu toute sa carrière, comme Golomeyev récupère des sommes pareilles, je pense que l'excuse de la performance personnelle, etc., j'y crois pas du tout.
Golomeïev qui a déjà claqué un record du monde hein, en étant dopé, qui du coup n'est pas homologué. Est-ce inquiétant de voir un médaillé des Jeux de Paris 2024 aller sur ces Jeux des dopés? Jérôme, on t'a pas encore entendu. On écoutait Johan De Boer, micro de Morgan Morin.
De toute façon, de l'avis général des copains. Après, que de le voir sort avec un autre œil, peut-être, oui, certainement. Qu'on appelle ça Jeux Olympiques. Ça me dérange un peu plus. C'est absolument loin des valeurs de l'olympisme.
C'est pas les Jeux Olympiques, hein.
Et en fait, on a surtout moi la crainte que j'ai, et peut-être que c'est un spectre qui risque de tomber, c'est que je peux m'imaginer que dans certaines disciplines, si à l'avenir ça continue, on soit pas si éloigné des résultats et des records d'antan. Et c'est là où ça peut poser un vrai problème.
Soit ils sont très nuls.
Voilà. Ça peut ouvrir quelques interrogations. Hein, moi,
c'est une certitude.
C'est-à-dire que dans certaines disciplines, il y a des records,
ils n'arrivent pas à battre
imbattables, et que les mecs chargés n'arrivent pas à les battre, ça va mettre en difficulté un certain nombre de disciplines quand même.
Ça veut dire que ça te plaît finalement. Tu te dis, grâce à ça, on va pouvoir enfin ouvrir les yeux sur certains records. Moi, je trouve ça magnifique, et je suis d'accord avec toi. Merci de me donner raison, Jérôme. J'adore quand tu me donnes raison.
Mais tu sais que je peux éventuellement parfois être d'accord avec toi. T'es au courant.
Mais ça me surprend à chaque fois.
Ça dépend des sujets. Et par contre, c'est un vrai. Pour moi, un sujet sur lequel doivent se porter les instances et de voir un peu ce qui va se passer. Parce que, bah écoutez, quand on va expliquer que tel coureur ou tel nageur ou tel haltérophile a pris ça, ça et ça, et qui pèse et qui porte ou qui va aussi vite que celui sans les prendre, là, il va falloir l'expliquer.
Exactement, le nageur anglais, là.
Ben Proud.
Comment on dit?
Ben Proud.
Right.
Fier.
Il est médaillé d'argent à Paris.
Exactement. Ouais.
Sur le
50 mètres nage libre.
50 nage libre.
Ouais.
Bon, on verra si
il a 30 ans.
Il a 30 ans.
Il fera mieux.
Il a 30 ans, donc on va voir. Lui, typiquement,
il a plutôt intérêt de faire bien mieux.
Hein. Et s'il bat pas le record du monde du 50 nage libre dans un an, il a 30 ans, il est dans la force de l'âge. Il a un niveau international monstrueux parce qu'il est médaillé d'argent olympique. Il va se charger pendant un an.
Pourquoi en fait? C'est ça.
Non, mais lui, s'il ne met pas trois dixièmes au record du monde.
Mais par contre, il peut discréditer la discipline qui a fait qu'il aille chercher l'oseille. Ouais. C'est ça ma problématique à moi.
Et on a des nageurs qui sont engagés, du coup, qui ont accepté les jeux des dopés. J'ai parlé d'haltérophilie et d'athlétisme tout à l'heure. Je préviens, pour l'instant, il y a pas d'athlète hein, qui a décidé de s'engager en athlétisme et en haltérophilie.
Ils avaient annoncé entre 50 et 100 athlètes à la création du projet de Paris 2024. Donc,
effectivement,
ils sont loin d'eux.
Je veux qu'on écoute. 7m50, c'est dangereux après pour lui.
Mélina Robert-Michon, on l'a interrogé, évidemment, l'athlète française. Aurélien Tiercin lui posait la question de réagir justement sur ces jeux des dopés. Est-ce que ça l'inquiète de voir un médaillé de Paris 2024 y aller? Mélina Robert-Michon, qu'on va écouter, la française.
J'espère qu'ils fassent leur truc à eux dans leur coin plutôt que venir dans nos compètes à nous. Hein. Mais non, je vois pas trop l'intérêt du truc. Après, c'est par curiosité de dire est-ce que ça va vraiment faire des trucs complètement différents ou pas. C'est un peu gâcher un peu ton image de dire, allez, je vais passer de l'autre côté, du côté obscur un peu. Je trouve que c'est un peu... Non, franchement, c'est pas le truc qui m'inspire et je vois pas trop à quoi ça sert, en fait.
Dans le côté obscur, mais il y a Robert Michon qui disait un truc aussi, c'est en fait qu'est-ce que les gens vont regarder finalement. Parce que ce sera une compétition sportive, hein. Effectivement, s'il n'y a pas de record du monde, qu'est-ce qu'on regarde, à quoi ça sert en fait, voilà, cette compétition.
Je vois pas tellement l'intérêt, ni même qui peut regarder ça. Alors, les États-Unis, la culture est
différente, bien sûr. Bien sûr.
Mais c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est l'analyse de ça. C'est ça, c'est la lecture des résultats,
t'as pas de perf, ça va être très bizarre quand même.
Julien Beneteau a pris 17 cafés ce matin, il va arriver complètement chargé pour les Jeux du sport dans quelques instants. On va jouer.
J'en ai pris qu'un.
Évidemment, les amis, je vous rappelle, sport au 7-32-16 pour participer. On fait gagner un ordinateur ce matin, on va jouer dans quelques instants dans les grandes gueules du sport sur RMC. Restez avec nous.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Et là, ça devient très, très, très sérieux pour la dernière ligne droite. Jérôme Pinault, Julien Beneteau, Fred Veil, Simon Dutin. Tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Les jeux du sport. Je vous rappelle le principe de contre deux. Vous défendez un auditeur.
Une réclamation.
Ouais.
On devrait instaurer un nouveau règlement parce qu'on vient de parler des jeux de la triche, des jeux des dopés, et on trouve que les jeux du sport ne devraient pas être praticables lorsqu'on n'est pas
En studio.
Qu'est-ce que tu as suivi, Jérôme?
Pascal Duprat.
Une aide extérieure peut vite intervenir et là, du coup, avec
c'est un
peu du dopage.
C'est pour cette raison que Pascal Duprat sera en studio avec
très
nous.
On verra si ça
se fait tirer tout ça au clair.
Moi, tu sais, je suis.
Tu dis les choses, tu mets la plume dans la plaie.
Que les règles, c'est les règles, tout le monde le sait, ça quand même.
Ah, Fred.
Mais bon.
Répartition des équipes, messieurs. Simon Dutin, Julien Beneteau, Jérôme Pinault, Fred Weiss.
On est mal barré.
J'accueille tout de suite nos auditeurs et joueurs. Bonjour Olivier et Jean-Manuel.
Bonjour.
Salut, je rappelle que vous avez un PC portable 16 pouces de la marque française Altic à gagner aujourd'hui. Olivier, c'est toi qui as appelé en premier. Tu choisis ton équipe avec Simon et Julien Beneteau ou avec Jérôme Pinault et Fred Weiss?
Jérôme et Fred
pour Olivier et donc Jean-Manuel.
Allez,
va
Jean, être très courageux.
Jean-Manuel va aller avec Simon et Julien. Allez, Juan, c'est parti, Manuel. Les gars. Question.
On est très hispanique.
C'est la Vuelta.
Où se trouve l'arrivée de la Vuelta aujourd'hui?
Je sais plus.
J'ai pas eu à toi hier, non.
question à une seule réponse.
Ouf.
Concentrez-vous. Combien de fois les GG Renaud Lavillenie a-t-il été champion du monde du saut à la perche?
Une.
Non, dehors, Fred.
Zéro.
Bénette. 1-0 pour l'équipe Dutin Beneteau. Question.
T'emballes pas, Fred.
Mais t'emballes pas du tout. Mais t'avais le droit de répondre, toi.
Non,
c'est moi qui avais une réponse. Toi, t'avais une aussi.
On a tous une réponse. J'étais arrêté à une par équipe, moi.
Non. Je l'avais, hein.
Question plus d'actu. Plusieurs réponses acceptées. Le boxeur français Christian Billy combat ce soir pour le titre WBC intérimaire des super moyens. Il combat face à Lester Martinez à Las Vegas. Combat de boxe pour Christian Billy à Las Vegas face à Lester Martinez. Quelle est la nationalité de Lester Martinez?
Mexicain, cubain,
colombien,
non,
portoricain,
péruvien,
argentin, non,
dominicain,
espagnol,
non, il est américain,
brésilien,
espagnol,
français. Panaméen.
Allemand.
Non.
Presque.
Honduras. Hondurien. Panaméen.
Non.
On va tous les faire.
Canadien.
Costa Ricain. Porto Ricain. On l'a déjà dit. Bolivien. Colombien.
Jamaïcain.
Français, il a dit.
Terminé. Guatémaltèque.
Ah oui. Et toi, tu peux essayer de proposer des trucs.
L'Amérique latine.
On les a tous fait.
J'ai aimé le coup de poker de Julien. Français.
Suédois, on a dit aussi.
Moi, j'ai dit belge.
Allemand.
On peut être surpris.
Question auditeur. C'est à vous, Olivier et Jean-Manuel. Je vous rappelle comment ça se passe. Vous donnez la réponse et ensuite
on a
prénom
un coup d'avance. Parce que...
Et ensuite votre prénom. Par exemple, vous dites Guatémaltèque, Olivier. Ok, les gars?
Ok.
Les amis, je vous demande qui a gagné l'US Open chez les dames?
Sabalenka, Olivier.
Et Olivier, Sabalenka. Égalisation, un partout.
Jean-Manuel, on a arrêté le réseau.
Question à une seule réponse, les GG. Question à une seule réponse.
Alors, une chacun. Ok, je suis chaud là.
Quel pays est le tenant du titre de la Coupe Davis?
Italie.
Oh, ouais.
Oui.
Demain, c'est parti. Question à plusieurs réponses.
Bah, c'est du tennis.
Allez.
Non, question à une réponse. Tiens, je vais changer.
Encore.
En quelle année se sont déroulés les mondiaux d'athlétisme à Tokyo?
91.
Oh là là, mais c'est incroyable. Et il va falloir se réveiller. Heureusement que Olivier est là pour l'instant. Question pour vous, les auditeurs. Olivier, Jean-Manuel.
Votre
réponse, c'est votre prénom derrière. En quelle année la France a gagné sa dernière Coupe Davis?
Wow.
Allez, tentez quelque chose.
2000, Olivier.
Non, quand même.
Non, c'était plus récemment. Qui a dit 2000?
C'est Olivier.
Jean-Manuel?
2010.
Non, c'était 2017. C'est raté pour vous, les gars. Il y a toujours 3-1 pour l'équipe Dutin Beneteau avec Jean-Manuel. Question à élimination, les amis. Chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé par votre équipe, mais vous.
Quel stress.
Allez, on met 3 points en jeu sur cette question.
On vient d'en donner un avec l'Italie.
Donnez-moi le top 20 des sportifs français les plus titrés de l'histoire des Jeux Olympiques. Les 20 sportifs français les plus titrés, donc champions olympiques de l'histoire des Jeux Olympiques. Hiver et été. On commence par Bennett.
Fourcade.
Martin Fourcade, le premier. 6 médailles d'or. On enchaîne avec Jérôme Pinault.
Chiquier bleu déjà, moi. Les plus titrés.
Les 20 sportifs français les plus titrés aux Jeux Olympiques d'hiver et d'été.
David Douillet.
Et non, David Douillet, il n'y est pas. Il n'est pas dans les 20. Terminé, Jérôme Pinault. Simon Dutin. Les 20 sportifs français qui ont gagné le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Été ou hiver, les gars, vous pétez un plomb. Simon.
Marie-Jo Pérec.
Marie-José Pérec, oui. 3 médailles d'or pour Marie-José Pérec. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Là. C'est compliqué. Fred Weiss.
Léon Marchand.
Léon Marchand. Évidemment, 4 médailles d'or pour Léon Marchand. On revient à toi, Julien Beneteau.
Félicia Ballanger.
Félicia Ballanger. Et oui, 3 médailles d'or en cyclisme sur piste. Ça marche. Simon.
Teddy Riner.
Teddy Riner, 5 médailles d'or, évidemment, en judo. Fred Weiss. On cherche les 20 sportifs français les plus titrés de l'histoire des JO, été ou hiver. Il y en a encore beaucoup. Hein.
Estanguet.
Tony Estanguet, bien sûr, 3 médailles d'or en canoë-kayak. Julien, et toi, qui est accroupi désormais là. Fred, t'es le dernier représentant de ton équipe.
Médaille d'or.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
Laura Flessel.
Oh là là, Laura Flessel sur le gong. Et non, ça marche pas, Laura Flessel. Éliminé, Julien Beneteau. Simon Dutin, là, c'est un duel. Deux équipes différentes en plus. On cherche les 20 sportifs français les plus titrés de l'histoire des JO, été ou hiver. Franchement, on l'a préparé hier, on pensait que ça allait être une boucherie.
Jean-Claude Killy.
T'es sûr?
Ah bah oui.
Et bien sûr que ça
passe. Bien sûr, Grenoble 68.
Alors. Fred Weiss.
Karabatic.
Nicolas Karabatic, bien sûr. 3 médailles d'or. Simon Dutin.
Là, j'ai pas...
Alors, attention, pas de tricher. Hein. On cède pas, s'il vous plaît.
Pas de dopage, là.
Simon.
Pas la Marielle Guatchel.
Marielle Guatchel.
Nao.
C'est pas bon, Marielle Guatchel.
C'est pas bon.
Allez, balle de match. Fred, si tu donnes, t'as 3 points pour ton équipe.
Non, allez. Non, les gars, on peut pas arrêter.
Fred.
En même temps, j'ai gagné déjà.
Non, faut que tu donnes une réponse.
Une de plus. 5. Là, le timing.
4, 3, 2.
Amanianou.
Non, mais
à chaque fois, il se peut que j'ai des quelques problèmes.
Mais non, les gars, le chrono est arrivé à son terme.
Bravo Olivier, c'est toi qui gagne un PC portable Altic, félicitations. Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un PC portable Altic 16 pouces garanti 3 ans. Altic, la marque française d'ordinateur basée à Nantes. Rendez-vous sur altic.com.
Merci les gars, je sens que vous allez faire appel à la VAR.
Merci.
Moi j'ai adoré.
C'est la première histoire de la saison. Merci Fred.
Ouais. Merci Olivier. Et voilà Olivier, effectivement, qu'on félicite.
En même temps, s'il n'y a pas de question tennis, Julien Beneteau, il n'y a plus qu'un point dans la besace.
On se retrouve demain dans les grandes gueules du sport. Demain, Simon Dutin, Julien Beneteau, full back to back. Il y aura Mario Martelly et Pascal Duprat. Tout de suite, c'est les Paris RMC. À tout de suite. Ciao.
Jusqu'à 13h.
Les Paris RMC.